Sodome et Gomorre, deuxième partie, chapitre 2, suite 4. À Paris, où je ne le rencontrais qu'en soirée, immobile, sanglé dans un habit noir, maintenu dans le sens de la verticale par son fier redressement, son élan pour plaire, la fusée de sa conversation, je ne me rendais pas compte à quel point il avait vieilli. Maintenant, dans un complet de voyage clair qui le faisait paraître plus gros, en marche et se dandinant, balançant un ventre qui bedonnait et un derrière presque symbolique, la cruauté du grand jour décomposait sur les lèvres, en fard, en poudre de riz fixée par le col de cuir sur le bout du nez, en noir sur les moustaches, teinte dont la couleur d'ébène contrastait avec les cheveux grisonnants, tout ce qui, aux lumières, eût semblé l'animation du teint chez un être encore jeune. Tout en causant avec lui, mais brièvement à cause de son train, je regardais le wagon d'Albertine pour lui faire signe que je venais. Quand je détournai la tête vers M. de Charlus, il me demanda de vouloir bien appeler un militaire, parent à lui, qui était de l'autre côté de la voie, exactement comme s'il allait monter dans notre train, mais en sens inverse, dans la direction qui s'éloignait de Balbec. « Il est dans la musique du régiment, » me dit M. de Charlus. « Vous avez la chance d'être assez jeune, moi l'ennui d'être assez vieux, pour que vous puissiez m'éviter de traverser et d'aller jusque-là. » Je me fis un devoir d'aller vers le militaire désigné, et je vis, en effet, au lyre brodé sur son col, qu'il était de la musique. Mais au moment où j'allais m'acquitter de ma commission, quelle ne fut pas ma surprise, et je peux dire mon plaisir, en reconnaissant Morel, le fils du valet de chambre de mon oncle, et qui me rappelait tant de choses. J'en oubliais de faire la commission de M. de Charlus. « Comment, vous êtes à Doncières ?»« Oui, et on m'a incorporé dans la musique, au service des batteries. » Mais il me répondit cela d'un ton sec et hautain. Il était devenu très poseur, et évidemment ma vue, en lui rappelant la profession de son père, ne lui était pas agréable. Tout d'un coup, je vis M. de Charlus fondre sur nous. Mon retard l'avait évidemment impatienté. « Je désirerais entendre ce soir un peu de musique, » dit-il à Morel sans aucune entrée en matière. « Je donne 500 francs pour la soirée. Cela pourrait peut-être avoir quelque intérêt pour un de vos amis, si vous en avez dans la musique. » J'avais beau connaître l'insolence de M. de Charlus, je fus stupéfait qu'il ne dit même pas bonjour à son jeune ami. Le baron ne me laissa pas, du reste, le temps de la réflexion. Me tendant affectueusement la main, « Au revoir, mon cher !» me dit-il pour me signifier que je n'avais qu'à m'en aller. Je n'avais, du reste, laissé que trop longtemps seule ma chère Albertine. « Voyez-vous, lui dis-je en remontant dans le wagon, la vie de bain de mer et la vie de voyage me font comprendre que le théâtre du monde dispose de moins de décors que d'acteurs, et de moins d'acteurs que de situations. À quel propos me dites-vous cela? Parce que M. de Charlus vient de me demander de lui envoyer un de ses amis, que juste à l'instant sur le quai de cette gare, je viens de reconnaître pour l'un des miens. Mais tout en disant cela, je cherchais comment le baron pouvait connaître la disproportion sociale à quoi je n'avais pas pensé. L'idée me vint d'abord que c'était par Jupien, dont la fille, on s'en souvient, avait semblé s'éprendre du violoniste. Ce qui me stupéfiait pourtant, c'est que, avant de partir pour Paris, dans 5 minutes, le baron demanda à entendre de la musique. Mais, revoyant la fille de Jupien dans mon souvenir, je commençais à trouver que les reconnaissances exprimeraient au contraire une part importante de la vie, si on savait aller jusqu'au romanesque vrai. Quand tout d'un coup, j'eus un éclair. et compris que j'avais été bien naïf. Monsieur de Charlus ne connaissait pas le moins du monde Morel, ni Morel monsieur de Charlus, lequel, ébloui, mais aussi intimidé par un militaire qui ne portait pourtant que des lyres, m'avait requis, dans son émotion, pour lui amener celui qu'il ne soupçonnait pas que je connusse. En tout cas, l'offre des 500 francs avait dû remplacer pour Morel l'absence de relations antérieures, car je les vis qui continuaient à causer, sans penser qu'ils étaient à côté de notre trame. Et me rappelant la façon dont M. de Charlus était venu vers Morel et moi, je saisissais sa ressemblance avec certains de ses parents quand il levait une femme dans la rue. Seulement, l'objet visé avait changé de sexe. À partir d'un certain âge, et même si des évolutions différentes s'accomplissent en nous, plus on devient soi, plus les traits familiaux s'accentuent. Car la nature, tout en continuant harmonieusement le dessin de sa tapisserie, interrompt la monotonie de la composition grâce à la variété des figures interceptées. Au reste, la hauteur avec laquelle M. de Charlus avait toisé le violoniste est relative selon le point de vue auquel on se place. Elle eût été reconnue par les trois quarts des gens du monde qui s'inclinaient, non pas par le préfet de police, qui, quelques années plus tard, le faisait surveiller. Le train de Paris est signalé, monsieur, dit l'employé qui portait les valises. Mais je ne prends pas le train. Mettez tout cela en consigne, que diable, dit monsieur de Charlus en donnant 20 francs à l'employé stupéfait du revirement et charmé du pourboire. Cette générosité attira aussitôt une marchande de fleurs. Prenez ces œillets. Tenez cette belle rose, mon bon monsieur, cela vous portera bonheur. Monsieur de Charlus, impatienté, lui tendit 40 sous, en échange de quoi la femme offrit ses bénédictions et de rechef ses fleurs. Mon Dieu, si elle pouvait nous laisser tranquilles, dit monsieur de Charlus en s'adressant d'un ton ironique et gémissant, et comme un homme énervé, à Morel, à qui il trouvait quelque douceur de demander appui. Ce que nous avons à dire est déjà assez compliqué. Peut-être l'employé de chemin de fer n'étant pas encore très loin, monsieur de Charlus ne tenait-il pas à avoir une nombreuse audience. Peut-être ces phrases incidentes permettaient-elles à sa timidité hautaine de ne pas aborder trop directement la demande de rendez-vous. Le musicien, se tournant d'un air franc, impératif et décidé vers la marchande de fleurs, leva vers elle une paume qui la repoussait et lui signifiait qu'on ne voulait pas de ses fleurs et qu'elle eût à fiche le camp plus vite. Monsieur de Charlus vit avec ravissement ce geste autoritaire et viril, manié par la main gracieuse pour qui il aurait dû être encore trop lourd, trop massivement brutal, avec une fermeté et une souplesse précoces qui donnaient à cet adolescent encore imberbe l'air d'un jeune David, capable d'assumer un combat contre Goliath. L'admiration du baron était involontairement mêlée de ce sourire que nous éprouvons à voir chez un enfant une expression d'une gravité au-dessus de son âge. Voilà quelqu'un par qui j'aimerais être accompagné dans mes voyages et aider dans mes affaires. Comme il simplifierait ma vie, se dit monsieur de Charlus. Le train de Paris, que le baron ne prit pas, partit. Puis nous montâmes dans le nôtre, Albertine et moi, sans que j'eusse su ce qu'étaient devenus monsieur de Charlus et Morel. Il ne faut jamais nous fâcher, je vous demande encore pardon, me redit Albertine en faisant allusion à l'incident Saint-Loup. Il faut que nous soyons toujours gentils tous les deux, me dit-elle tendrement. Quant à votre ami Saint-Loup, si vous croyez qu'il m'intéresse en quoi que ce soit, vous vous trompez bien. Ce qui me plaît seulement en lui, c'est qu'il a l'air de tellement vous aimer. C'est un très bon garçon, dis-je en me gardant de prêter à Robert des qualités supérieures imaginaires, comme je n'aurais pas manqué de faire par amitié pour lui, si j'avais été avec toute autre personne qu'Albertine. C'est un être excellent, franc, dévoué, loyal, sur qui on peut compter pour tout. En disant cela, je me bornais, retenu par ma jalousie, à dire au sujet de Saint-Loup la vérité. Mais aussi, c'était bien la vérité que je disais. Or, elle s'exprimait exactement dans les mêmes termes dont s'était servie, pour me parler de lui, Madame de Villeparisis, quand je ne le connaissais pas encore. L'imaginait si différent, si hautain, et me disait « On le trouve bon parce que c'est un grand seigneur. » De même, quand elle m'avait dit « Il serait si heureux. » Je me figurais, après l'avoir aperçu devant l'autel, prêt à mener, que les paroles de sa tante étaient pure banalité mondaine, destinées à me flatter. Et je m'étais rendu compte ensuite qu'elle l'avait dit sincèrement, en pensant à ce qui m'intéressait, à mes lectures, et parce qu'elle savait que c'était cela qu'aimait Saint-Loup. Comme il devait m'arriver de dire sincèrement à quelqu'un, faisant une histoire de son ancêtre La Rochefoucauld, l'auteur des Maximes, et qui eût voulu aller demander des conseils à Robert, « Il sera si heureux. » C'est que j'avais appris à le connaître. Mais, en le voyant la première fois, je n'avais pas cru qu'une intelligence parente de la mienne pût s'envelopper de tant d'élégance extérieure, de vêtements et d'attitude. Sur son plumage, je l'avais jugé d'une autre espèce. C'était Albertine, maintenant, qui, peut-être un peu parce que Saint-Loup, par bonté pour moi, avait été si froid avec elle, me dit ce que j'avais pensé autrefois. « Ah, il est si dévoué que cela !» Je remarque qu'on trouve toujours toutes les vertus aux gens quand ils sont du faubourg Saint-Germain. Or, que Saint-Loup fût du faubourg Saint-Germain, c'est à quoi je n'avais plus songé une seule fois au cours de ces années où, se dépouillant de son prestige, il m'avait manifesté ses vertus. Changement de perspective pour regarder les êtres, déjà plus frappant dans l'amitié que dans les simples relations sociales. Mais combien plus encore dans l'amour, où le désir à une échelle si vaste grandit à des proportions telles les moindres signes de froideur qu'il m'en avait fallu bien moins que celle qu'avait eue au premier abord Saint-Loup pour que je me crusse tout d'abord dédaigné d'Albertine, que je m'imaginasse ses amis comme des êtres merveilleusement inhumains et que je n'attachasse qu'à l'indulgence qu'on a pour la beauté et pour une certaine élégance le jugement d'Elstir, quand il me disait de la petite bande, tout à fait dans le même sentiment que Madame de Villeparisis de Saint-Loup, « Ce sont de bonnes filles. » Or, ce jugement, n'était-ce pas celui que j'eusse volontiers porté quand j'entendais Albertine dire « En tout cas, dévoué ou non, j'espère bien ne plus le revoir, puisqu'il a amené de la brouille entre nous. Il ne faut plus se fâcher tous les deux. « Ce n'est pas gentil !» Je me sentais, puisqu'elle avait paru désirer Saint-Loup, à peu près guérie pour quelque temps de l'idée qu'elle aimait les femmes, ce que je me figurais inconciliable. Et devant le caoutchouc d'Albertine, dans lequel elle semblait devenue une autre personne, l'infatigable errante des jours pluvieux, et qui, collée, malléable et gris en ce moment, semblait moins devoir protéger son vêtement contre l'eau qu'avoir été trempé par elle et s'attacher au corps de mon ami, comme afin de prendre l'empreinte de ses formes pour un sculpteur, j'arrachai cette tunique qui épousait jalousement une poitrine désirée, et attirant Albertine à moi, « Mais toi, ne veux-tu pas, voyageuse indolente, rêver sur mon épaule en y posant ton front ?» dis-je en prenant sa tête dans mes mains et en lui montrant les grandes prairies inondées et muettes qui s'étendaient dans le soir tombant jusqu'à l'horizon fermé sur les chaînes parallèles de vallonnements lointains et bleuâtres. Le lendemain, le fameux mercredi, dans ce même petit chemin de fer que je venais de prendre à Balbec pour aller dîner à la Raspelière, je tenais beaucoup à ne pas manquer Cottard à Grincourt-Saint-Vaast, où un nouveau téléphonage de Madame Verdurin m'avait dit que je le retrouverais. Il devait monter dans mon train et m'indiquerait où il fallait descendre pour trouver les voitures qu'on envoyait de la Raspelière à la gare. Aussi, le petit train ne s'arrêtant qu'un instant à Grincourt, première station après Doncières, d'avance je m'étais mise à la portière, tant j'avais peur de ne pas voir Cottard ou de ne pas être vue de lui. Crainte bien vaine. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point le petit clan, ayant façonné tous les habitués sur le même type, ceux-ci, par surcroît en grande tenue de dîner, attendant sur le quai, se laissaient tout de suite reconnaître à un certain air d'assurance, d'élégance et de familiarité, à des regards qui franchissaient comme un espace vide où rien n'arrête l'attention. Les rangs pressés du vulgaire public guettaient l'arrivée de quelque habitué qui avait pris le train à une station précédente et pétillait déjà de la causerie prochaine. Ce signe d'élection, dont l'habitude de dîner ensemble avait marqué les membres du petit groupe, ne les distinguait pas seulement quand, nombreux, en force, ils étaient massés, faisant une tâche plus brillante au milieu du troupeau des voyageurs, ce que Brichot appelait le « pécus », sur les ternes visages desquels ne pouvait se lire aucune notion relative au Verdurin, aucun espoir de jamais dîner à la Raspelière. D'ailleurs, ces voyageurs vulgaires eussent été moins intéressés que moi si devant eux on eût prononcé, et malgré la notoriété acquise par certains, les noms de ces fidèles que je m'étonnais de voir continuer à dîner en ville, alors que plusieurs le faisaient déjà, d'après les récits que j'avais entendus, avant ma naissance, à une époque à la fois assez distante et assez vague pour que je fusse tentée de m'en exagérer l'éloignement. Le contraste entre la continuation non seulement de leur existence, mais du plein de leur force, et l'anéantissement de tant d'amis que j'avais déjà vus, ici ou là, disparaître, me donnait ce même sentiment que nous éprouvons quand, à la dernière heure des journaux, nous lisons précisément la nouvelle que nous attendions le moins, par exemple celle d'un décès prématuré, et qui nous semble fortuit parce que les causes dont il est l'aboutissant nous sont restées inconnues. Ce sentiment est celui que la mort n'atteint pas uniformément tous les hommes, mais qu'une lame, plus avancée de sa montée tragique, emporte une existence, située au niveau d'autres, que longtemps encore les lames suivantes épargneront. Nous verrons, du reste, plus tard, la diversité des morts qui circulent invisiblement être la cause de l'inattendu spécial que présentent dans les journaux les nécrologies. Puis je voyais qu'avec le temps, non seulement des dons réels, qui peuvent coexister avec la pire vulgarité de conversation, se dévoilent et s'imposent, mais encore que des individus médiocres arrivent à ces hautes places, attachés dans l'imagination de notre enfance à quelques vieillards célèbres, sans songer que le serait, un certain nombre d'années plus tard, leur disciple devenu maître et inspirant maintenant le respect et la crainte qu'ils éprouvaient jadis. Mais si les noms des fidèles n'étaient pas connus du Pécus, leur aspect pourtant les désignait à ses yeux. Même dans le train, lorsque le hasard de ce que les uns et les autres d'entre eux avaient eu à faire dans la journée les y réunissait tous ensemble, n'ayant plus à cueillir à une station suivante qu'un isolé, le wagon dans lequel ils se trouvaient assemblés, désigné par le coude du sculpteur Ski, pavoisé par le temps de Cottard, fleurissait de loin comme une voiture de luxe et ralliait, à la gare voulue, le camarade retardataire. Le seul à qui eussent pu échapper, à cause de sa demi-cécité, ses signes de promission, était Brichot. Mais aussi l'un des habitués assurait volontairement à l'égard de l'aveugle les fonctions de guetteur. Et, Dès qu'on avait aperçu son chapeau de paille, son parapluie vert et ses lunettes bleues, on le dirigeait avec douceur et hâte vers le compartiment d'élection. De sorte qu'il était sans exemple qu'un des fidèles, à moins d'exciter les plus graves soupçons de Bamboche, ou même de ne pas être venu par le train, n'eût pas retrouvé les autres en cours de route. Quelquefois, l'inverse se produisait. Un fidèle avait dû aller assez loin dans l'après-midi et, en conséquence, devait faire une partie du parcours seul avant d'être rejoint par le groupe. Mais, même ainsi isolé, seul de son espèce, il ne manquait pas le plus souvent de produire quelque effet. Le futur vers lequel il se dirigeait le désignait à la personne assise sur la banquette d'en face, laquelle se disait « Ce doit être quelqu'un !» discernait, fût-ce autour du chapeau mou de Cottard ou du sculpteur Ski, une vague auréole, et n'était qu'à demi étonné quand, à la station suivante, une foule élégante, si c'était leur point terminus, accueillait le fidèle à la portière et s'en allait avec lui vers l'une des voitures qui attendaient, salués tous très bas par l'employé de Deauville, ou bien, si c'était à une station intermédiaire, envahissait le compartiment. C'est ce que fit, et avec précipitation, car plusieurs étaient arrivés en retard, juste au moment où le train déjà en gare allait repartir, la troupe que Cottard mena au pas de course vers le wagon à la fenêtre duquel il avait vu mes signaux. Brichot, qui se trouvait parmi ses fidèles, l'était devenu davantage au cours de ces années qui, pour d'autres, avaient diminué leur assiduité. Sa vue baissant progressivement l'avait obligé, même à Paris, à diminuer de plus en plus les travaux du soir. D'ailleurs, il avait peu de sympathie pour la nouvelle Sorbonne, où les idées d'exactitude scientifique, à l'allemande, commençaient à l'emporter sur l'humanisme. Il se bornait exclusivement maintenant à son cours et au jury d'examen. Aussi avait-il beaucoup plus de temps à donner à la mondanité, c'est-à-dire aux soirées chez les Verdurin, ou à celles qu'offrait parfois aux Verdurin tel ou tel fidèle, tremblant d'émotion. Il est vrai qu'à deux reprises, l'amour avait manqué de faire ce que les travaux ne pouvaient plus, détacher Brichot du petit clan. Mais Madame Verdurin, qui veillait au grain, et d'ailleurs en ayant pris l'habitude dans l'intérêt de son salon, avait fini par trouver un plaisir désintéressé dans ce genre de drame et d'exécution, l'avait irrémédiablement brouillé avec la personne dangereuse, sachant, comme elle le disait, mettre bon ordre à tout et porter le fer rouge dans la plaie. Cela lui avait été d'autant plus aisé pour l'une des personnes dangereuses que c'était simplement la blanchisseuse de Brichot. Et Madame Verdurin, ayant ses petites entrées dans le cinquième du professeur, écarlate d'orgueil quand elle daignait monter ses étages, n'avait eu qu'à mettre à la porte cette femme de rien. « Comment ? » avait dit la patronne à Brichot. « Une femme comme moi vous fait l'honneur de venir chez vous et vous recevez une telle créature ?» Brichot n'avait jamais oublié le service que Madame Verdurin lui avait rendu en empêchant sa vieillesse de sombrer dans la fange, et lui était de plus en plus attaché. Alors qu'en contraste avec ce regain d'affection, et peut-être à cause de lui, la patronne commençait à se dégoûter d'un fidèle par trop docile et de l'obéissance de qui elle était sûre d'avance. Mais Brichot tirait de son intimité chez les Verdurin un éclat qui le distinguait entre tous ses collègues de la Sorbonne. Ils étaient éblouis par les récits qu'il leur faisait de dîners auxquels on ne les inviterait jamais, par la mention dans des revues ou par le portrait exposé au salon qu'avait fait de lui tel écrivain ou tel peintre réputé, dont les titulaires des autres chaires de la faculté des lettres prisaient le talent, mais n'avaient aucune chance d'attirer l'attention. Enfin, par l'élégance vestimentaire elle-même du philosophe mondain, élégance qu'ils avaient prise d'abord pour du laisser-aller, jusqu'à ce que leur collègue leur eût bienveillamment expliqué que le chapeau haute forme se laisse volontiers poser par terre au cours d'une visite et n'est pas de mise pour les dîners à la campagne, si élégant soit-il, où il doit être remplacé par le chapeau mou, fort bien porté avec le smoking. Pendant les premières secondes où le petit groupe se fut engouffré dans le wagon, je ne pus même pas parler à Cottard, car il était suffoqué, moins d'avoir couru pour ne pas manquer le train, que par l'émerveillement de l'avoir attrapé si juste. Il en éprouvait plus que la joie d'une réussite, presque l'hilarité d'une joyeuse farce. « Ah ah, elle est bien bonne !» dit-il quand il se fut remis. « Un peu plus, nom d'une pipe, c'est ce qui s'appelle arriver à pic !» ajouta-t-il en clignant de l'œil, non pas pour demander si l'expression était juste, car il débordait maintenant d'assurance, mais par satisfaction. Enfin, il put me nommer aux autres membres du petit clan. Je fus ennuyé de voir qu'ils étaient presque tous dans la tenue qu'on appelle à Paris « smoking ». J'avais oublié que les Verdurins commençaient vers le monde une évolution timide, ralentie par l'affaire Dreyfus, accélérée par la musique nouvelle. Évolution d'ailleurs démentie par eux, et qu'ils continueraient de démentir jusqu'à ce qu'elle eût abouti, comme ces objectifs militaires qu'un général n'annonce que lorsqu'il les a atteints, de façon à ne pas avoir l'air battu s'il les manque. Le monde était d'ailleurs, de son côté, tout préparé à aller vers eux. Il en était encore à les considérer comme des gens chez qui n'allait personne de la société, mais qui n'en éprouve aucun regret. Le salon Verdurin passait pour un temple de la musique. C'était là, assurait-on, que Vinteuil avait trouvé l'inspiration, encouragement. Or, si la sonate de Vinteuil restait entièrement incomprise et à peu près inconnue, son nom, prononcé comme celui du plus grand musicien contemporain, exerçait un prestige extraordinaire. Enfin, certains jeunes gens du faubourg s'étant avisés qu'ils devaient être aussi instruits que des bourgeois, il y en avait trois parmi eux qui avaient appris la musique, et auprès desquels la sonate de Vinteuil jouissait d'une réputation énorme. Ils en parlaient, rentrés chez eux, à la mère intelligente qui les avait poussés à se cultiver. Et s'intéressant aux études de leur fils, au concert, les mères regardaient avec un certain respect Madame Verdurin, dans sa première loge qui suivait la partition. Jusqu'ici, cette mondanité latente des Verdurin ne se traduisait que par deux faits. D'une part, Madame Verdurin disait de la princesse de Caprarola « Ah, celle-là est intelligente, c'est une femme agréable. Ce que je ne peux pas supporter, ce sont les imbéciles, les gens qui m'ennuient, ça me rend folle. » Ce qui eût donné à penser à quelqu'un d'un peu fin que la princesse de Caprarola, femme du plus grand monde, avait fait une visite à Madame Verdurin. Elle avait même prononcé son nom au cours d'une visite de condoléances qu'elle avait faite à Madame Swann après la mort du mari de celle-ci, et lui avait demandé si elle les connaissait. « Comment dites-vous ? » avait répondu Odette d'un air subitement triste. « Verdurin !»« Ah, alors je sais !» avait-elle repris avec désolation. « Je ne les connais pas, ou plutôt je les connais sans les connaître. Ce sont des gens que j'ai vus autrefois chez des amis, il y a longtemps. Ils sont agréables. » La princesse de Caprarola partie, Odette aurait bien voulu avoir dit simplement la vérité. Mais le mensonge immédiat était non le produit de ses calculs, mais la révélation de ses craintes, de ses désirs. Elle niait non ce qu'il eût été à droit de nier, mais ce qu'elle aurait voulu qu'il ne fût pas, même si l'interlocuteur devait apprendre, dans une heure, que cela était en effet. Peu après, elle avait repris son assurance et avait même été au-devant des questions en disant, pour ne pas avoir l'air de les craindre, « Madame Verdurin, mais comment, je l'ai énormément connue !» avec une affectation d'humilité comme une grande dame qui raconte qu'elle a pris le tramway. « On parle beaucoup des Verdurin depuis quelque temps, » disait Madame de Souvré. Odette, avec un dédain souriant de duchesse, répondait « Mais oui, il me semble en effet qu'on en parle beaucoup. De temps en temps, il y a comme cela des gens nouveaux qui arrivent dans la société. » Sans penser qu'elle était elle-même une des plus nouvelles. « La princesse de Caprarola y a dîné, » reprit Madame de Souvré. « Ah !» répondit Odette en accentuant son sourire. « Cela ne m'étonne pas. C'est toujours par la princesse de Caprarola que ces choses-là commencent. Et puis, il en vient une autre. Par exemple, la comtesse Molé. » Odette, en disant cela, avait l'air d'avoir un profond dédain pour les deux grandes dames qui avaient l'habitude d'essuyer les plâtres dans les salons nouvellement ouverts. On sentait à son ton que cela voulait dire qu'elle, Odette, comme Madame de Souvré, on ne réussirait pas à les embarquer dans ces galères-là. Après l'aveu qu'avait fait Madame Verdurin de l'intelligence de la princesse de Caprarola, le second signe que les Verdurin avaient conscience du destin futur était que, sans l'avoir formellement demandé, bien entendu, ils souhaitaient vivement qu'on vint maintenant dîner chez eux en habit du soir. Monsieur Verdurin eût pu maintenant être salué sans honte par son neveu, celui qui était dans les choux. Parmi ceux qui montèrent dans mon wagon, à Grincourt, se trouvait sa niette, qui jadis avait été chassée de chez les Verdurin par son cousin Forcheville, mais était revenue. Ses défauts, au point de vue de la vue mondaine, était autrefois, malgré des qualités supérieures, un peu du même genre que ceux de Cottard. Timidité, désir de plaire, efforts infructueux pour y réussir. Mais si la vie, en faisant revêtir à Cottard, sinon chez les Verdurin, où il était par la suggestion que les minutes anciennes exercent sur nous quand nous nous retrouvons dans un milieu accoutumé, restait quelque peu le même, du moins dans sa clientèle, dans son service d'hôpital à l'Académie de médecine. Des dehors de froideur, de dédain, de gravité, qui s'accentuaient pendant qu'il débitait devant ses élèves complaisants ses calembours, avait creusé une véritable coupure entre le Cottard actuel et l'ancien. Les mêmes défauts s'étaient au contraire exagérés chez sa niette, au fur et à mesure qu'il cherchait à s'en corriger. Sentant qu'il s'ennuyait souvent, qu'on ne l'écoutait pas, au lieu de ralentir alors, comme l'eût fait Cottard, de forcer l'attention par l'air d'autorité, non seulement il tâchait, par un ton badin, de se faire pardonner le tour trop sérieux de sa conversation, mais pressait son débit, déblayait, usait d'abréviations pour paraître moins long, plus familier avec les choses dont il parlait, et parvenait seulement, en les rendant inintelligibles, à sembler interminables. Son assurance n'était pas comme celle de Cottard qui glaçait ses malades, lesquels, aux gens qui vantaient son aménité dans le monde, répondaient « Ce n'est plus le même homme quand il vous reçoit dans son cabinet, vous dans la lumière, lui à contre-jour et les yeux perçants. » Elle n'imposait pas. On sentait qu'elle cachait trop de timidité, qu'un rien suffirait à la mettre en fuite. Sa niette, à qui ses amis avaient toujours dit qu'il se défiait trop de lui-même, et qui, en effet, voyait des gens qu'il jugeait avec raison fort inférieurs obtenir aisément les succès qui lui étaient refusés, ne commençait plus une histoire sans sourire de la drôlerie de celle-ci, de peur qu'un air sérieux ne fît pas suffisamment valoir sa marchandise. Quelquefois, faisant crédit au comique que lui-même avait l'air de trouver à ce qu'il allait dire, on lui faisait la faveur d'un silence général. Mais le récit tombait à plat. Un convive, doué d'un bon cœur, glissait parfois à sa niette l'encouragement, privé, presque secret, d'un sourire d'approbation, le lui faisant parvenir furtivement, sans éveiller l'attention, comme on vous glisse un billet. mais personne n'allait jusqu'à assumer la responsabilité, à risquer l'adhésion publique d'un éclat de rire. Longtemps après l'histoire finie et tombée, sa niette, désolée, restait seule à se sourire à lui-même, comme goûtant en elle et pour soi la délectation qu'il feignait de trouver suffisante et que les autres n'avaient pas éprouvée. Quant au sculpteur Ski, appelé ainsi à cause de la difficulté qu'on trouvait à prononcer son nom polonais, et parce que lui-même affectait, depuis qu'il vivait dans une certaine société, de ne pas vouloir être confondu avec des parents fort bien posés, mais un peu ennuyeux et très nombreux, il avait, à 45 ans et fort laid, une espèce de gaminerie, de fantaisie rêveuse qu'il avait gardée pour avoir été jusqu'à 10 ans le plus ravissant enfant prodige du monde, coqueluche de toutes ces dames. Madame Verdurin prétendait qu'il était plus artiste qu'Elstir. Il n'avait d'ailleurs avec celui-ci que des ressemblances purement extérieures. Elle suffisait pour qu'Elstir, qui avait une fois rencontré Ski, eut pour lui la répulsion profonde que nous inspire, plus encore que les êtres tout à fait opposés à nous, ceux qui nous ressemblent en moins bien, en qui s'étale ce que nous avons de moins bon, les défauts dont nous nous sommes guéris, nous rappelant fâcheusement ce que nous avons pu paraître à certains avant que nous fussions devenus ce que nous sommes. Mais Madame Verdurin croyait que Ski avait plus de tempérament qu'Elstir, parce qu'il n'y avait aucun art pour lequel il n'eût de la facilité. Et elle était persuadée que cette facilité, il l'eût poussée jusqu'au talent s'il avait eu moins de paresse. Celle-ci paraissait même à la patronne un don de plus, étant le contraire du travail, qu'elle croyait le lot des êtres sans génie. Ski peignait tout ce qu'on voulait, sur des boutons de manchette ou sur des dessus de porte. Il chantait avec une voix de compositeur, jouait de mémoire, en donnant au piano l'impression de l'orchestre, moins par sa virtuosité que par ses fausses basses signifiant l'impuissance des doigts à indiquer qu'ici il y a un piston, que, du reste, il imitait avec la bouche. Cherchant ses mots en parlant pour faire croire à une impression curieuse, de la même façon qu'il retardait un accord plaqué ensuite en disant « ping » pour faire sentir les cuivres, il passait pour merveilleusement intelligent. Mais ses idées se ramenaient en réalité à 2 ou 3, extrêmement courtes. Ennuyé de sa réputation de fantaisiste, il s'était mis en tête de montrer qu'il était un être pratique, positif, d'où chez lui une triomphante affectation de fausse précision, de faux bon sens, aggravée parce qu'il n'avait aucune mémoire et des informations toujours inexactes. Ses mouvements de tête, de cou, de jambes, eussent été gracieux s'il eût eu encore 9 ans, des boucles blondes, un grand col de dentelle et de petites bottes de cuir rouge. Arrivés en avance avec Cottard et Brichot à la gare de Grincourt, ils avaient laissé Brichot dans la salle d'attente et étaient allés faire un tour. Quand Cottard avait voulu revenir, Ski avait répondu « Mais rien ne presse. Aujourd'hui, ce n'est pas le train local, c'est le train départemental. » Ravi de voir l'effet que cette nuance dans la précision produisait sur Cottard, il ajouta, parlant de lui-même, « Oui, parce que Ski aime les arts, parce qu'il modèle la glaise, on croit qu'il n'est pas pratique. Personne ne connaît la ligne mieux que moi. » Néanmoins, ils étaient revenus vers la gare. Quand tout d'un coup, apercevant la fumée du petit train qui arrivait, Cottard, poussant un hurlement, avait crié « Nous n'avons qu'à prendre nos jambes à notre cou !» Ils étaient en effet arrivés juste, la distinction entre le train local et départemental n'ayant jamais existé que dans l'esprit de Ski. « Mais est-ce que la princesse n'est pas dans le train ?» demanda d'une voix vibrante Brichot, dont les lunettes énormes, resplendissantes comme ces réflecteurs que les laryngologues s'attachent au front pour éclairer la gorge de leurs malades, semblaient avoir emprunté leur vie aux yeux du professeur, et peut-être, même dans les moments les plus insignifiants, regardaient elles-mêmes avec une attention soutenue et une fixité extraordinaire. D'ailleurs, la maladie, en retirant peu à peu la vue à Brichot, lui avait révélé les beautés de ce sens. Comme il faut souvent que nous nous décidions à nous séparer d'un objet, à en faire cadeau par exemple, pour le regarder, le regretter, l'admirer. Non, non, la princesse a été reconduite jusqu'à Menneville par des invités de Madame Verdurin qui prenaient le train de Paris. Il ne serait même pas impossible que Madame Verdurin, qui avait affaire à Saint-Mars, fût avec elle. Comme cela, elle voyagerait avec nous, et nous ferions route tous ensemble. Ce serait charmant. Il s'agira d'ouvrir l'œil à Menneville, et le bon. Ah, ça ne fait rien. On peut dire que nous avons bien failli manquer le coche. Quand j'ai vu le train, j'ai été sidérée. C'est ce qui s'appelle arriver au moment psychologique. Voyez-vous ça, que nous ayons manqué le train? Madame Verdurin s'apercevant que les voitures revenaient sans nous? Tableau! Ajouta le docteur, qui n'était pas encore remis de son émoi. Voilà une équipée qui n'est pas banale. Dites donc, Brichot, qu'est-ce que vous dites de notre petite escapade? Demanda le docteur avec une certaine fierté. Par ma foi, répondit Brichot. En effet, si vous n'aviez plus trouvé le train, c'eût été, comme eût parlé feu Villemain, un sale goût pour la fanfare. Mais moi, distrait dès les premiers instants par ces gens que je ne connaissais pas, je me rappelais tout d'un coup ce que Cottard m'avait dit dans la salle de danse du petit casino, et, comme si un chaînon invisible eût pu relier un organe et les images du souvenir, celle d'Albertine appuyant ses seins contre ceux d'André me faisait un mal terrible au cœur. Ce mal ne dura pas. L'idée de relation possible entre Albertine et des femmes ne me semblait plus possible depuis l'avant-veille, où les avances que mon ami avait faites à Saint-Loup avaient excité en moi une nouvelle jalousie qui m'avait fait oublier la première. J'avais la naïveté des gens qui croient qu'un goût en exclut forcément un autre. À Arambouville, comme le tram était bondé, un fermier en blouse bleue, qui n'avait qu'un billet de troisième, monta dans notre compartiment. Le docteur, trouvant qu'on ne pourrait pas laisser voyager la princesse avec lui, appela un employé, exhiba sa carte de médecin d'une grande compagnie de chemin de fer, et força le chef de gare à faire descendre le fermier. Cette scène peina et alarma à un tel point la timidité de sa nièce que, dès qu'il la vit commencer, craignant déjà, à cause de la quantité de paysans qui étaient sur le quai, qu'elle ne prît les proportions d'une jacquerie, il feignit d'avoir mal au ventre. Et pour qu'on ne pût l'accuser d'avoir sa part de responsabilité dans la violence du docteur, il enfila le couloir en feignant de chercher ce que Cottard appelait les water. N'en trouvant pas, il regarda le paysage de l'autre extrémité du tortillard. Si ce sont vos débuts chez Madame Verdurin, monsieur, me dit Brichot, qui tenait à montrer ses talents à un nouveau, vous verrez qu'il n'y a pas de milieu où l'on sente mieux la douceur de vivre. Comme disait un des inventeurs du dilettantisme, du « je m'en fichisme », de beaucoup de mots en « isme » à la mode chez nos snobinettes, je veux dire « monsieur le prince de Talleyrand ». Car, quand il parlait de ces grands seigneurs du passé, il trouvait spirituel et couleur de l'époque de faire précéder leur titre de « monsieur » et disait « monsieur le duc de la Rochefoucauld »,« monsieur le cardinal de Retz », qu'il appelait aussi de temps en temps ce « struggle for lifer » de Condi, ce « boulangiste » de Marcillac. Et il ne manquait jamais, avec un sourire, d'appeler Montesquieu quand il parlait de lui « monsieur le président seconda de Montesquieu ». Un homme du monde spirituel eût été agacé de ce pédantisme qui sent l'école. Mais, dans les parfaites manières de l'homme du monde, en parlant d'un prince, il y a un pédantisme aussi qui trahit une autre caste, celle où l'on fait précéder le nom Guillaume de l'empereur et où l'on parle à la troisième personne à une altesse. Ah, celui-là, reprit Brichot en parlant de Monsieur le prince de Talleyrand, il faut le saluer chapeau bas, c'est un ancêtre. C'est un milieu charmant, me dit Cottard. Vous trouverez un peu de tout, car Madame Verdurin n'est pas exclusive. Des savants illustres, comme Brichot de la haute noblesse, comme par exemple la princesse Cherbatov, une grande dame russe, amie de la grande duchesse d'Oxy, qui même la voit seule aux heures où personne n'est admis. En effet, la grande duchesse d'Oxy, ne se souciant pas que la princesse Cherbatov, qui depuis longtemps n'était plus reçue par personne, vint chez elle quand elle eut pu y avoir du monde, ne la laissait venir que de très bonne heure, quand l'altesse n'avait auprès d'elle aucun des amis à qui il eût été aussi désagréable de rencontrer la princesse que cela eût été gênant pour celle-ci. Comme depuis 3 ans, aussitôt après avoir quitté, comme une manucure, la grande duchesse, Madame Cherbatov partait chez Madame Verdurin, qui venait seulement de s'éveiller et ne la quittait plus. On peut dire que la fidélité de la princesse passait infiniment celle même de Brichot, si assidu pourtant à ses mercredis, où il avait le plaisir de se croire, à Paris, une sorte de Chateaubriand à l'abbaye au bois, et où, à la campagne, il se faisait l'effet de devenir l'équivalent de ce que pouvait être chez Madame du Châtelet, celui qu'il nommait toujours, avec une malice et une satisfaction de lettré, Monsieur de Voltaire. Son absence de relation avait permis à la duchesse Cherbatov de montrer, depuis quelques années, au Verdurin une fidélité qui faisait d'elle plus qu'une fidèle ordinaire, la fidèle type, l'idéal que Madame Verdurin avait longtemps cru inaccessible, et qu'arrivée au retour d'âge, elle trouvait enfin incarnée en cette nouvelle recrue féminine. De quelque jalousie qu'en eût été torturée la patronne, il était sans exemple que les plus assidus de ses fidèles ne l'eussent lâchée une fois. Les plus casaniers se laissaient tenter par un voyage. Les plus continents avaient eu une bonne fortune. Les plus robustes pouvaient attraper la grippe. Les plus oisifs être pris par leurs 28 jours. Les plus indifférents allaient fermer les yeux à leur mère mourante. Et c'était en vain que Madame Verdurin leur disait alors, comme l'impératrice romaine, qu'elle était le seul général à qui dut obéir sa légion, comme le Christ ou le Kaiser, que celui qui aimait son père et sa mère autant qu'elle et n'était pas prêt à les quitter pour la suivre n'était pas digne d'elle, qu'au lieu de s'affaiblir au lit ou de se laisser berner par une grue, il ferait mieux de rester près d'elle, elle, seul remède et seule volupté. Mais la destinée, qui se plaît parfois à embellir la fin des existences qui se prolongent tard, avait fait rencontrer à Madame Verdurin la princesse Cherbatov. Brouillée avec sa famille, exilée de son pays, ne connaissant plus que la baronne Pudbu et la grande duchesse d'Oxy, chez lesquelles, parce qu'elle n'avait pas envie de rencontrer les amis de la première, et parce que la seconde n'avait pas envie que ses amis rencontrassent la princesse, elle n'allait qu'aux heures matinales où Madame Verdurin dormait encore, ne se souvenant pas d'avoir gardé la chambre une seule fois depuis l'âge de 12 ans, où elle avait eu la rougeole, ayant répondu le 31 décembre à Madame Verdurin, qui, inquiète d'être seule, lui avait demandé si elle ne pourrait pas rester couchée à l'improviste, malgré le jour de l'an. « Mais qu'est-ce qui pourrait m'en empêcher n'importe quel jour ?»« D'ailleurs, ce jour-là, on reste en famille, et vous êtes ma famille. » Vivant dans une pension et changeant de pension, quand les Verdurins déménageaient, les suivant dans leur villégiature, la princesse avait si bien réalisé pour Madame Verdurin le vers de Vigny. « Toi seule me parus ce qu'on cherche toujours. » que la présidente du petit cercle, désireuse de s'assurer une fidèle jusque dans la mort, lui avait demandé que celle des deux qui mourrait la dernière se fît enterrer à côté de l'autre. Vis-à-vis des étrangers, parmi lesquels il faut toujours compter celui à qui nous mentons le plus, parce que c'est celui par qui il nous serait le plus pénible d'être méprisés, nous-mêmes, la princesse Chcherbatov avait soin de représenter ses trois seules amitiés, avec la grande duchesse, avec les Verdurin, avec la baronne Pudbu, comme les seuls, non que des cataclysmes indépendants de sa volonté eussent laissé émerger au milieu de la destruction de tout le reste, mais qu'un libre choix lui avait fait élire de préférence à tout autre, et auquel un certain goût de solitude et de simplicité l'avait fait se borner. « Je ne vois personne d'autre, » disait-elle en insistant sur le caractère inflexible de ce qui avait plutôt l'air d'une règle qu'on s'impose que d'une nécessité qu'on subit. Elle ajoutait « Je ne fréquente que trois maisons. » Comme les auteurs qui, craignant de ne pouvoir aller jusqu'à la quatrième, annoncent que leur pièce n'aura que trois représentations. Que monsieur et madame Verdurin ajoutassent foi ou non à cette fiction, ils avaient aidé la princesse à l'inculquer dans l'esprit des fidèles. Et ceux-ci étaient persuadés à la fois que la princesse, entre des milliers de relations qui s'offraient à elle, avait choisi les seuls Verdurin, et que les Verdurin, sollicités en vain par toute la haute aristocratie, n'avaient consenti à faire qu'une exception en faveur de la princesse. À leurs yeux, la princesse, trop supérieure à son milieu d'origine pour ne pas s'y ennuyer, entre tant de gens qu'elle eût pu fréquenter, ne trouvait agréable que les seuls Verdurin. Et réciproquement, ceux-ci, sourds aux avances de toute l'aristocratie qui s'offrait à eux, n'avaient consenti à faire qu'une seule exception, en faveur d'une grande dame, plus intelligente que ses pareilles, la princesse Chcherbatov. La princesse était fort riche. Elle avait à toutes les premières une grande baignoire où, avec l'autorisation de madame Verdurin, elle emmenait les fidèles et jamais personne d'autre. On se montrait cette personne énigmatique et pâle qui avait vieilli sans blanchir et plutôt en rougissant comme certains fruits durables et ratatinés des haies. On admirait à la fois sa puissance et son humilité, car, ayant toujours avec elle un académicien, Brichot, un célèbre savant, Cottard, le premier pianiste du temps, plus tard monsieur de Charlus, elle s'efforçait pourtant de retenir exprès la baignoire la plus obscure, restait au fond, ne s'occupait en rien de la salle, vivait exclusivement pour le petit groupe, qui, un peu avant la fin de la représentation, se retirait en suivant cette souveraine étrange et non dépourvue d'une beauté timide, fascinante et usée. Or, si madame Chcherbatov ne regardait pas la salle, restait dans l'ombre, c'était pour tâcher d'oublier qu'il existait un monde vivant qu'elle désirait passionnément et ne pouvait pas connaître. La coterie, dans une baignoire, était pour elle ce qu'est pour certains animaux l'immobilité quasi cadavérique en présence du danger. Néanmoins, le goût de nouveauté et de curiosité qui travaille les gens du monde faisait qu'ils prêtaient peut-être plus d'attention à cette mystérieuse inconnue qu'aux célébrités des premières loges, chez qui chacun venait en visite. On s'imaginait qu'elle était autrement que les personnes qu'on connaissait, qu'une merveilleuse intelligence, jointe à une bonté divinatrice, retenait autour d'elle ce petit milieu de gens éminents. La princesse était forcée, si on lui parlait de quelqu'un ou si on lui présentait quelqu'un, de feindre une grande froideur pour maintenir la fiction de son horreur du monde. Néanmoins, avec l'appui de Cottard ou de madame Verdurin, quelques nouveaux réussissaient à la connaître. Et son ivresse d'en connaître un était telle qu'elle en oubliait la fable de l'isolement voulu et se dépensait follement pour le nouveau venu. S'il était fort médiocre, chacun s'étonnait. Quelle chose singulière que la princesse, qui ne veut connaître personne, aille faire une exception pour cet être si peu caractéristique. Mais ces fécondantes connaissances étaient rares, et la princesse vivait étroitement confinée au milieu des fidèles. Cottard disait beaucoup plus souvent « Je le verrai mercredi chez les Verdurin » que « Je le verrai mardi à l'académie ». Il parlait aussi des mercredis comme d'une occupation aussi importante et aussi inéluctable. D'ailleurs, Cottard était de ces gens peu recherchés, qui se font un devoir aussi impérieux de se rendre à une invitation que si elle constituait un ordre, comme une convocation militaire ou judiciaire. Il fallait qu'il fût appelé par une visite bien importante pour qu'il lâchât les Verdurin le mercredi. L'importance ayant trait, d'ailleurs, plutôt à la qualité du malade qu'à la gravité de la maladie. Car Cottard, quoique bon homme, renonçait aux douceurs du mercredi, non pour un ouvrier frappé d'une attaque, mais pour le coryza d'un ministre. « Encore dans ce cas, disait-il à sa femme, excuse-moi bien auprès de Madame Verdurin, préviens que j'arriverai en retard. Cette excellence aurait bien pu choisir un autre jour pour être enrhumée. » Un mercredi, leur vieille cuisinière s'étant coupée la veine du bras, Cottard, déjà en smoking pour aller chez les Verdurin, avait haussé les épaules quand sa femme lui avait timidement demandé s'il ne pourrait pas penser la blesser. « Mais je ne peux pas, Léontine » s'était-il écrié en gémissant. « Tu vois bien que j'ai mon gilet blanc !» Pour ne pas impatienter son mari, Madame Cottard avait fait chercher au plus vite le chef de clinique. Celui-ci, pour aller plus vite, avait pris une voiture, de sorte que la sienne, entrant dans la cour au moment où celle de Cottard allait sortir pour le mener chez les Verdurin, on avait perdu 5 minutes à avancer, à reculer. Madame Cottard était gênée que le chef de clinique vit son maître en tenue de soirée. Cottard pestait du retard, peut-être par remords, et partit avec une humeur exécrable qu'il fallut tous les plaisirs du mercredi pour arriver à dissiper. Si un client de Cottard lui demandait « Rencontrez-vous quelquefois les Guermantes ?» C'est de la meilleure foi du monde que le professeur répondait « Peut-être pas justement les Guermantes, je ne sais pas, mais je vois tout ce monde-là chez des amis à moi. » Vous avez certainement entendu parler des Verdurin, ils connaissent tout le monde. Et puis eux, du moins, ce ne sont pas des gens chics des Cathy. Il y a du répondant. On évalue généralement que Madame Verdurin est riche à 35 millions. Dame, 35 millions, c'est un chiffre. Aussi, elle n'y va pas avec le dos de la cuillère. Vous me parliez de la duchesse de Guermantes, je vais vous dire la différence. Madame Verdurin, c'est une grande dame. La duchesse de Guermantes est probablement une purée. Vous saisissez bien la nuance, n'est-ce pas? En tout cas, que les Guermantes aillent ou non chez Madame Verdurin, elle reçoit, ce qui vaut mieux, les Sherbatoff, les de Forcheville et tutti quanti, des gens de la plus haute volée, toute la noblesse de France et de Navarre, à qui vous me verriez parler de père à compagnon. D'ailleurs, ce genre d'individu recherche volontiers les princes de la science. » Ajoutait-il avec un sourire d'amour-propre béat, amené à ses lèvres par la satisfaction orgueilleuse. Non pas tellement que l'expression jadis réservée aux potins, aux charcots, s'appliqua maintenant à lui, mais qu'il sut enfin user comme il convenait de toutes celles que l'usage autorise, et qu'après les avoir longtemps piochées, il possédait à fond. Aussi, après m'avoir cité la princesse de Sherbatoff parmi les personnes que recevait Madame Verdurin, Cottard ajoutait en clignant de l'œil. « Vous voyez le genre de la maison. Vous comprenez ce que je veux dire ?» Il voulait dire ce qu'il y a de plus chic. Or, recevoir une dame russe qui ne connaissait que la grande duchesse Eudoxie, c'était peu. Mais la princesse Chtcherbatov eût même pu ne pas la connaître sans qu'eût été amoindrie l'opinion que Cottard avait relativement à la suprême élégance du salon Verdurin, et sa joie d'y être reçue. La splendeur dont nous semblent revêtus les gens que nous fréquentons n'est pas plus intrinsèque que celle de ces personnages de théâtre, pour l'habillement desquels il est bien inutile qu'un directeur dépense des centaines de mille francs à acheter des costumes authentiques et des bijoux vrais, qui ne feront aucun effet, quand un grand décorateur donnera une impression de luxe mille fois plus somptueuse en dirigeant un rayon factice sur un pourpoint de grosse toile semée de bouchons de verre et sur un manteau en papier. Tel homme a passé sa vie au milieu des grands de la terre, qui n'étaient pour lui que d'ennuyeux parents ou de fastidieuses connaissances, parce qu'une habitude contractée dès le berceau les avait dépouillés à ses yeux de tout prestige. Mais, en revanche, il a suffi que celui-ci vînt, par quelque hasard, s'ajouter aux personnes les plus obscures, pour que d'innombrables cottards aient vécu éblouis par des femmes titrées dont ils s'imaginaient que le salon était le centre des élégances aristocratiques et qui n'étaient même pas ce qu'étaient Madame de Villeparisis et ses amies, des grandes dames déchues que l'aristocratie, qui avait été élevée avec elles, ne fréquentait plus. Non, celle dont l'amitié a été l'orgueil de tant de gens. Si ceux-ci publiaient leurs mémoires et y donnaient les noms de ces femmes et de celles qu'elles recevaient, personne, pas plus Madame de Cambremer que Madame de Guermantes, ne pourrait les identifier. Mais qu'importe ! Un cottard a ainsi sa marquise, laquelle est pour lui la baronne, comme dans Marivaux, la baronne, dont on ne dit jamais le nom et dont on n'a même pas l'idée qu'elle en a jamais eu un. Cottard croit d'autant plus y trouver résumée l'aristocratie, laquelle ignore cette dame, que plus les titres sont douteux, plus les couronnes tiennent de place sur les verres, sur l'argenterie, sur le papier à lettres, sur les malles. De nombreux cottards, qui ont cru passer leur vie au cœur du faubourg Saint-Germain, ont eu leur imagination peut-être plus enchantée de rêves féodaux que ceux qui avaient effectivement vécu parmi des princes. De même que pour le petit commerçant, qui, le dimanche, va parfois visiter des édifices du vieux temps, c'est quelquefois dans ceux dont toutes les pierres sont d'une autre et dont les voûtes ont été, par des élèves de Viollet-le-Duc, peintes en bleu et semées d'étoiles d'or, qu'ils ont le plus la sensation du Moyen-Âge. La princesse sera à Menneville. Elle voyagera avec nous. Mais je ne vous présenterai pas tout de suite. Il vaudra mieux que ce soit Madame Verdurin qui fasse cela. À moins que je ne trouve un joint. Comptez alors que je sauterai dessus. « De quoi parliez-vous ? » dit sa nièce, qui fit semblant d'avoir été prendre l'air. « Je citais à monsieur, » dit Brichot, « un mot que vous connaissez bien, de celui qui est, à mon avis, le premier des fins de siècle, du siècle XVIII, s'entend, le prénommé Charles Maurice, abbé de Périgord. Il avait commencé par promettre d'être un très bon journaliste, mais il tourna mal, je veux dire qu'il devint ministre. La vie a de ses disgrâces. Politicien peu scrupuleux au demeurant, qui, avec des dédains de grands seigneurs racés, ne se gênait pas de travailler à ses heures pour le roi de Prusse, c'est le cas de le dire, et mourut dans la peau d'un centre-gauche. » À Saint-Pierre-des-Ifs monta une splendide jeune fille qui, malheureusement, ne faisait pas partie du petit groupe. Je ne pouvais détacher mes yeux de sa chair de magnolia. de ses yeux noirs, de la construction admirable et haute de ses formes. Au bout d'une seconde, elle voulut ouvrir une glace, car il faisait un peu chaud dans le compartiment, et ne voulant pas demander la permission à tout le monde, comme seule je n'avais pas de manteau, elle me dit d'une voix rapide, fraîche et rieuse, « Ça ne vous est pas désagréable, monsieur, l'air ?» J'aurais voulu lui dire « Venez avec nous chez les Verdurin » ou « Dites-moi votre nom et votre adresse. » Je répondis « Non, l'air ne me gêne pas, mademoiselle. » Et après, sans se déranger de place, « La fumée, ça ne gêne pas vos amis ?» Et elle alluma une cigarette. À la troisième station, elle descendit d'un saut. Le lendemain, je demandai à Albertine qui cela pouvait être. Car stupidement, croyant qu'on ne peut aimer qu'une chose, jaloux de l'attitude d'Albertine à l'égard de Robert, j'étais rassurée quant aux femmes. Albertine me dit, je crois très sincèrement, qu'elle ne savait pas. « Je voudrais tant la retrouver » m'écriai-je. « Tranquillisez-vous, on se retrouve toujours !» répondit Albertine. Dans le cas particulier, elle se trompait. Je n'ai jamais retrouvé ni identifié la belle fille à la cigarette. On verra du reste pourquoi, pendant longtemps, je dus cesser de la chercher. Mais je ne l'ai pas oubliée. Il m'arrive souvent, en pensant à elle, d'être pris d'une folle envie. Mais ces retours du désir nous forcent à réfléchir que, si on voulait retrouver ces jeunes filles-là avec le même plaisir, il faudrait revenir aussi à l'année qui a été suivie depuis de 10 autres pendant lesquelles la jeune fille s'est fanée. On peut quelquefois retrouver un être, mais non abolir le temps. Tout cela, jusqu'au jour imprévu et triste, comme une nuit d'hiver, où on ne cherche plus cette jeune fille-là, ni aucune autre, où trouver vous effraierait même. Car on ne se sent plus assez d'attrait pour plaire, ni de force pour aimer. Non pas, bien entendu, qu'on soit, au sens propre du mot, impuissant, et quant à aimer, on aimerait plus que jamais. Mais on sent que c'est une trop grande entreprise pour le peu de force qu'on garde. Le repos éternel a déjà mis des intervalles où l'on ne peut sortir ni parler. Mettre un pied sur la marche qu'il faut, c'est une réussite, comme de ne pas manquer le saut périlleux. Être vu dans cet état par une jeune fille qu'on aime, même si l'on a gardé son visage et tous ses cheveux blonds de jeune homme, on ne peut plus assumer la fatigue de se mettre au pas de la jeunesse. Tant pis si le désir charnel redouble au lieu de s'amortir. On fait venir pour lui une femme à qui l'on ne se souciera pas de plaire, qui ne partagera qu'un soir votre couche et qu'on ne reverra jamais.